UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Paris, 14 avril. Ma vie est un exil. J'en vis des jours tranquilles. À Clichy. Henri, Volcan.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une nouvelle émission en version originale français. La radio en français de la radio UMH sur la Costa Blanca Alicantine en Espagne. Et aujourd'hui, une super émission. Avec nous, nous avons la chance d'accueillir tout d'abord Madame Elina Aroustamian.
Bonjour à tous les francophones.
Monsieur Pascal Dietz.
Bonjour, bonjour à tous les francophones aussi.
Et Monsieur Sacha Bartza.
Bonjour à tous, bonjour à tous les francophones.
Bonjour à vous. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extraordinaire, puisque c'est quelque chose de très sympa et de très intéressant, de novateur qui se lance en ce moment sur la Costa Blanca. C'est l'apéro à l'Alicantine. A networking francophone.
Henri, j'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure. Je crie depuis toujours tout mon amour, mon amour.
Eh bien, nous commençons aujourd'hui cette émission avec un nouveau générique spécialement pour cette nouvelle aventure de la radio. Déjà 9 ans de radio en français sur Radio UMH en version originale. Et eh bien, nous avons pris aujourd'hui pour commencer donc avec cette émission une chanson qui parle d'amour, Anaïs Nin, du célèbre chanteur français Renaud, accompagné de Romane Cerda, qui nous parle d'une histoire d'amour qui a été réelle, celle du prix Nobel de littérature Henry Miller, et d'Anaïs Nin, qui est écrivaine, dont les célèbres journaux ont fait le tour du monde, hier comme aujourd'hui, qui parle de leur histoire d'amour, qui est un peu l'histoire d'amour du français de par le monde. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puisque Apéro à l'Alicantine Networking Francophone, en fait, est un point de rencontre pour tous les francophones de la Costa Blanca. Mais qu'est-ce que cet apéro à l'Alicantine? Et je voudrais pour cela que ces organisateurs prennent la parole. Je commencerai peut-être par Madame Aroustamian, Elina Aroustamian, qui est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire parce que, bon, on parle de francophonie, la francophonie va bien au-delà donc de la France. Et bien des fois, elle parcourt beaucoup de kilomètres, puisque Madame Aroustamian est moscovite, elle vient donc de Russie. Et c'est quelqu'un qui éprouve un grand amour pour les différentes langues. Je crois qu'on pourra en parler après, puisque c'est quelqu'un qui, depuis son arrivée en Espagne, est lié à plusieurs communautés linguistiques. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui se débrouille vraiment bien, elle est très modeste, c'est donc moi qui vais le dire, en italien, en français, en anglais, en russe bien sûr, en espagnol, en portugais. J'oublie certainement quelque chose, mais c'est peut-être à elle de le dire plus tard, qui est lié au domaine publicitaire, au domaine juridique, au domaine culturel, de l'information, du business. Eh bien, nous vous remercions d'être là, Madame Aroustamian. Et puisque vous êtes l'une des organisatrices de ces journées, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu avant de céder la parole à vos collègues.
Merci beaucoup, Pierre. C'est très gentil. Oui, c'est vrai que j'étais toujours très douée de la culture francophone. Et dès que je suis arrivée à Alicante, en Espagne, en fait, j'ai bien vu, j'ai bien noté qu'il y avait beaucoup de francophones ici, dans la province d'Alicante, énormément de francophones. En plus, après, j'ai vu, par exemple, la statistique officielle sur le site web de la Diputation d'Alicante. Et ça fait plus de 75 000 d'habitantes francophones officielles dans la Provence. Et en fait, ça fait très beaucoup. Et du coup, j'ai pensé que pourquoi pas organiser de temps en temps des trucs intéressants entre eux, parce qu'il y a beaucoup de gens, normalement, enfin, beaucoup de francophones ne parlent pas vraiment génial espagnol, et ils souffrent de ça parce qu'ils ne peuvent pas sortir, organiser quelque chose, s'amuser ou bien faire du business ensemble. Et c'est pourquoi, par exemple, l'année dernière, j'ai organisé à Alicante, dans le bar Frix, le mois de la francophonie à Alicante. Et c'était intéressant l'idée de réunir tous les francophones et organiser des choses culturelles de chaque pays. Cette année, en fait, on a décidé avec mes collègues, avec Sacha et Pascal, d'organiser une autre chose. C'est plutôt pour les businessmen, les hommes d'affaires francophones, un événement qu'on va le faire une fois par mois, et où on va réunir les hommes d'affaires francophones pour se faire connaître, tout simplement. Et chaque fois, on a en fait un thème différent. Et on va développer ce thème pendant l'événement, c'est-à-dire qu'on invite des gens intéressants de ce thème-là qui va nous raconter quelque chose de ce thème. On a bien joué le premier événement.
C'est très bien passé. J'ai eu la chance d'être l'un des invités grâce à vous d'ailleurs, et j'ai pu le connaître d'une toute première main, et je confirme.
Merci beaucoup Pierre, et en fait on est très fiers d'avoir cet événement, et surtout que on a eu de la chance d'obtenir, disons, deux consuls.
Le consul de France
et l'ex-consul de Luxembourg. Mais en fait, elle travaille toujours dans le consulat de Luxembourg.
Donc une présence diplomatique qui s'est intéressée à cet événement, ce n'est pas banal, c'est quelque chose donc de sérieux. Et le monde des affaires, on a eu donc des personnes qui avaient des entreprises assez importantes, même d'autres beaucoup plus modestes. Mais en tout cas, ça a permis de réunir tout ce petit monde autour donc de cette journée qui s'est quand même, ce premier networking francophone qui s'est avéré, je trouve, très, très performant du point de vue des rencontres, puisque c'était l'une des missions que vous y étiez marquée.
Exactement. En fait, la première fois, ce n'était pas du tout facile, parce que quand tu organises quelque chose la première fois, personne ne sait ce que ça va être. Donc, les gens n'ont pas beaucoup de confiance. Mais quand même, la présence des consuls, c'était très important pour nous. Et comme ça, j'ai vu dans les yeux des gens qui sont venus, beaucoup plus de confiance pour notre événement.
Une marque de confiance certaine. Je veux dire, il y a eu un soutien, donc institutionnel, diplomatique, en quelque sorte, qui était là, donc un soutien, et qui s'intéresse à ce qui bouge à Alicante du point de vue de la francophonie. Et déjà, il faut le dire, je m'avance peut-être un petit peu, mais il y a eu quand même une présence francophone en dehors de la France, la Belgique,
l'Algérie aussi.
La Suisse même, et d'autres, même, et d'autres pays n'étant pas liés directement à l'orbite francophone, mais il y a beaucoup de francophones qui ont d'autres nationalités, même une présence allemande, si je ne m'abuse, et d'autres encore.
Oui, mais il faut dire aussi qu'il y avait des Espagnols.
Des Espagnols, bien sûr. N'oublions pas, parce que, en fait, quand on parle de ces 75 000 francophones, en fait, on est en train de parler des personnes qui ont un passeport ou une carte d'identité étrangère. Mais il y a énormément de francophones, dont les personnes encore qui relèvent de cette première arrivée en 1962 lors de l'indépendance de l'Algérie, les Pieds Noirs, qui sont arrivés en grand nombre, plus de 30 000 personnes à l'époque, leurs descendants, et beaucoup de Français aussi, qui depuis un certain temps ont donc même habitent parmi nous, et beaucoup de personnes, beaucoup d'Espagnols aussi, qui sont parfaitement francophones. Je veux dire, donc ce chiffre est très important sur la province d'Alicante, et 75 000, moi je dirais que ça en fait beaucoup plus. Je ne saurais pas l'indiquer, mais sans doute un chiffre qui est quand même important.
Exactement, c'est pourquoi c'était intéressant d'organiser ce projet et de montrer les gens de l'actualité de ce projet.
Oui. Avant de céder la parole à Pascal Dietz, nous avons à l'autre bout de l'appareil, et ça, vous ne le savez peut-être pas, monsieur Sacha Bardza, qui se trouve en ce moment à Barcelone. Bonjour Sacha.
bonjour à tous.
Au rebonjour.
Au début, et je m'excuse, je ne suis pas en présence directe avec vous, mais bon, je suis à Barcelone, justement, actuellement. Bon, d'ailleurs, je vais devoir peut-être vous quitter dans une petite demi-heure. Mais bon, enchanté d'être avec vous tous et bon, pour présenter notre nouveau projet qu'on a commencé justement le 7 février dernier.
C'est-à-dire que maintenant, c'est le mois de mars et on en est déjà à la deuxième édition et ça ne saurait tarder. Donc, on va voir l'émission radio en même temps que la deuxième édition. Et là, je vais vous demander de nous avancer déjà un petit peu quel est le sujet au centre de cette deuxième rencontre francophone.
Bien entendu. Écoutez, comme vous avez dit, Elina, on essaie que chaque rencontre soit un point aussi d'information, un petit peu, et savoir un peu plus, en plus de nous connaître et de rencontrer d'autres personnes. Et le prochain apéro à l'Alicantine, on va parler surtout de marketing digital. D'accord.
Marketing
et
digital.
Je pense que c'est très intéressant.
Sans doute.
On va avoir la chance de pouvoir avoir deux personnes qui vont parler sur ce thème. Et je pense que ça va être très 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 bon. Et surtout, c'est le marketing digital actuellement est en hausse. Et ça va être très, très 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 intéressant pour les entreprises qui vont y assister. Déjà, je peux vous avancer que pratiquement, on a déjà des entreprises, des nouvelles entreprises qui se sont inscrites et d'autres qui étaient déjà venues le 7 février et ont voulu
être présentes à nouveau,
revenir avec nous et connaître bien entendu ces nouveaux inscrits qui seront là le 7 mars.
Oui, parce que finalement, c'est un cercle qui peut grandir. Déjà, les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, foisonnent en ce moment, parce que je pense que vraiment c'est en train de grandir. Vous avez créé quelque chose d'important quand même. On ne dirait pas, mais je pense que ça commence à devenir important. Et j'ai l'impression qu'il s'est créé même une convivialité, puisque je pense que vous avez su créer donc cette ambiance favorable à l'échange. Et en plus, il y a eu des spécialistes venus de différentes, chacun de différentes coutures, si je puis dire. Et la première fois aussi, il faudrait aborder le premier sujet. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent se consacrer au business. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement pour les personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui de cette émission en version originale en français? De quoi a-t-il été question lors de cette première rencontre?
Écoutez, la première rencontre, c'était une rencontre assez, assez intéressante parce que justement, on a discuté, on a parlé et on a expliqué comment créer un projet étant francophone en Espagne ou à Alicante et comment actuellement avoir une entreprise, disons, qui a commencé de zéro. Étant venu d'un pays étranger et actuellement avoir une entreprise qui est connue et qui actuellement pour les Espagnols et pour les francophones a une bonne position actuellement en Alicante et en Espagne. Il y a par exemple quelqu'un d'un hôtel, par exemple, qui est venu. C'est un Belge qui est venu.
Un hôtelier, oui, certainement, qui avait lancé un projet très intéressant, en pleine nature d'ailleurs, qui a donc un produit différencié également et qu'il était possible donc de faire connaître à travers donc d'un certain réseau francophone, mais qui n'est pas fermé non plus, qui n'exclut pas donc la société espagnole en général et autres. Mais c'est déjà donc un point d'ouverture déjà d'une communauté qui ne se renferme pas, mais au contraire qui s'ouvre, qui s'épanouit, mais qui en même temps donc aurait donc à travers donc cette plateforme donc la possibilité de s'élargir, d'aller au-delà et de créer des synergies entre différentes entreprises très variées entre elles, si je puis dire. Je crois que Madame Aroussiamian voulait ajouter quelque chose, ponctualiser peut-être.
Oui, en fait, le premier thème, c'était choisi parce qu'on est tous émigrés ici. C'est pas du tout facile d'être émigré, c'est clair. Et quand on vient, on sais pas du tout comment nous trouver dans la nouvelle société qu'on rencontre, non, dans un nouveau pays. Et surtout au niveau de la langue aussi, on a beaucoup de difficultés normalement. Et c'est pourquoi on a invité les gens pour tout d'abord raconter de leur propre expérience comment obtenir leur propre business depuis le zéro. Et après, on a invité un psychologue qui nous a fait beaucoup de rire et elle a aussi raconté beaucoup de choses intéressantes aussi.
Une psychologue espagnole francophone. Oui. Faut-il ponctualiser là ?
Elle est espagnole.
On peut dire son nom ?
Oui, Elena Pérez.
Elena Pérez, et nous l'invitons peut-être à une prochaine émission puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir. Et je crois que ça a été vraiment, on a vraiment apprécié puisque ça a permis de délier un petit peu dans cette tension initiale à travers donc des activités enfin très performantes du point de vue de la réflexion. Et
exact,
elle
oui.
a suggéré.
Elle est espagnole d'origine, mais elle a étudié à Paris. Elle a travaillé aussi à Paris comme psychologue, c'est important. Et donc voilà, c'était comme le comportement de leader, comment atteindre ses objectifs dans le business.
C'est fondamental.
Et en fait...
Pascal...
Réellement, on avait remarqué qu'il y avait un petit peu un déficit de ce genre de réunion ou de travail, de networking entre les francophones, parce qu'on est un petit peu dispersés. Je dirais pas dans le monde, mais dans la province d'Alicante, et on se connaît pas parfois tous.
Pas forcément. J'avoue que je ne connaissais pas beaucoup, pas grand nombre des personnes qui sont venues. J'en connais pas mal. Je croyais en connaître pas mal.
Et c'est pour cela qu'on a trouvé très intéressant de faire ce genre d'événement.
Certainement.
Et ce qui nous permet de nous connaître et d'interchanger entre nous des idées, des projets et se connaître. Personnellement, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce genre de réunion dans une province comme la nôtre qui est vraiment fort ouverte aux étrangers
et aux échanges, au tourisme, je veux dire, où ça bouge beaucoup,
très cosmopolite. Oui. Rappelez qu'en Espagne, Alicante, je crois, c'est la troisième province qui reçoit le plus d'étrangers. Et derrière des villes immenses comme Madrid et Barcelone.
C'est quelque chose. On parle de villes qui ont plusieurs millions d'habitants.
Exactement.
Je veux dire, c'est quelque chose. Hein.
Et on a la chance de pouvoir changer et interchanger avec toutes ces nationalités différentes et au fait qu'ils parlent la même langue, qui est le francophone, et raconter nos expériences et nous connaître. Parce que c'est vrai que parfois, on entend parler de quelqu'un qui habite à Torrevieja ou à Guadamar ou à Benidorm. Et on n'a pas eu l'occasion de
J'ai vraiment apprécié ce commentaire-là, cette réflexion, parce que je suis tout à fait d'accord. Ça fait très longtemps que je me dis, les francophones sur place, puisqu'ils disposent d'une langue qui finalement est latine, se mêlent à l'élément naturel espagnol... pas tout à fait comme d'autres communautés, et disparaissent en quelque sorte, et deviennent, je ne dirais pas invisibles, mais peut-être moins visibles. Je veux dire, c'est pas ces liens forts de communauté dont on parle par rapport aux Norvégiens, qui ont la colonie la plus importante à Alicante, on a également la colonie de Norvégiens la plus importante au monde. On a également la colonie de Britanniques, également la plus importante en Espagne. Il y a plusieurs colonies, même de Russes, puisqu'on parle de Russie, une colonie de russophones, pas de Russes, mais de russophones, qui est peut-être la plus importante en Espagne aussi. Hein, russophones, je ne parle pas de Russes forcément, mais c'est quand même quelque chose. Et Alicante, ne l'oublions pas, c'est quand même la quatrième province d'Espagne, du fait de sa population, quasiment 2 millions d'habitants, sur une toute petite surface, un peu plus de 5000 km², ce qui fait... une densité quand même assez extraordinaire, comparable à la densité belge ou hollandaise, parmi les plus élevées de la planète, presque 400 habitants par kilomètre carré. Ce n'est pas banal, avec un aéroport international aussi, qui nous permet de nous déplacer un peu partout dans le monde. Et du point de vue business aussi, par rapport à la francophonie, il faut dire que, disons que, en premier lieu, la province d'Alicante exporte vers la francophonie. Tout comme l'Espagne également, qui exporte et importe surtout des pays francophones. On a des premières puissances mondiales telles que la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, et même le Maghreb aussi, avec des pays très forts comme le Maroc, l'Algérie et autres fort présents, ou enfin tout l'espace francophone sur les 5 continents. C'est quelque chose. Monsieur Barza, vous êtes, on ne vous voit pas, mais nous savons que vous restez à l'écoute.
Oui, je suis là. je vous écoute.
Oui, voilà. Alors, on voudrait connaître votre histoire, parce que à la base, vous êtes belge. Vous avez aussi des origines variées, très riches, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, j'étais belge, d'accord. Parce que ma mère et mon père sont belges, d'accord. Et puis bon, depuis 10 ans, je suis espagnol, d'accord. Moi, je suis né en Espagne, d'accord. Donc de père et de mère belges. Ma famille est belge. Et bon, moi, j'ai vécu toute ma vie à Alicante. Et bon, j'ai fait mes études au lycée français. Je travaille pour une entreprise française, d'accord, à Alicante. Et puis, bon, pendant 10 ans, j'ai vécu à Barcelone. Et puis là, maintenant, je suis de nouveau là à Alicante, content de retrouver l'endroit où je suis né, l'endroit où j'ai vécu toute ma jeunesse. Et puis, bon, de travailler, bien entendu, pour une entreprise française, entouré de francophones. Et beaucoup de, bon, comme on en parlait, de tourisme dans la province d'Alicante, russe, francophone, bien entendu, de toutes les langues. Oui. Et puis bon, comme disait Pascal, c'est vraiment un projet vraiment où on pense que ça va réunir beaucoup de francophones, beaucoup d'entreprises françaises, qui sont déjà
françaises ou francophones, je veux dire,
depuis beaucoup de temps, et d'autres qui viennent d'arriver. D'ailleurs, pour nous, ces dernières semaines ont été très intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'entreprises, de nouveaux sponsors qui ont contacté avec nous pour pouvoir savoir de quoi s'agissait nos apéros. Ces nouvelles personnes, ces nouvelles entreprises viendront au prochain apéro le jeudi 7 mars. Pour nous, c'est vraiment très 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 agréable de savoir que bon, notre projet a commencé à avoir un bon succès.
Commence à aboutir.
Surtout, bon, à travers les réseaux sociaux, c'est très important. Sur ce qu'on en parlait au début, on a un groupe de LinkedIn, un groupe de Facebook. D'ailleurs, Elina a créé il y a quelques mois un groupe aussi de francophones où il y a plus de 500 personnes en peu de
500
mois,
personnes, c'est pas mal du tout, hein, ça. Félicitations,
oui,
à nouveau.
Non, merci. C'était en fait, j'ai créé il y a un an un groupe sur Facebook qui s'appelle les francophones d'Alicante. Et mon but était de raconter aux gens de tout ce qui se passe dans la province d'Alicante, surtout dans la ville d'Alicante. Et au niveau culturel, enfin, les actualités, un peu de tout. Parce que le même problème, les francophones, normalement, ici, ils ne parlent pas vraiment espagnol, ils ne savent pas quoi faire, où sortir, qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, je raconte, par exemple, je ne sais pas, la semaine dernière, j'ai écrit du carnaval, j'ai donné le programme du carnaval, des pièces de théâtre, de ciné, tout ce qui se passe, un peu de tout.
Ils peuvent ainsi s'intégrer un petit peu à la vie locale et en apprendre davantage.
Exactement. Et bien sûr, je raconte des endroits francophones, des événements francophones, ça c'est l'essentiel.
Comme on en parlait, qu'il y ait une connexion francophone. Parce que, bon, comme disait Pascal, souvent on sait qu'on existe, mais on ne sait pas où on est. D'accord ? Il y a beaucoup d'associations francophones dans la province. On en connaît pas mal. D'ailleurs, il y en a une ou deux qui viendront à notre prochain apéro. C'est important de savoir.
Est-ce que vous pouvez nous avancer les noms de ces associations qui vont venir ? Est-ce qu'on peut l'avoir ici en prime à la radio ?
Bon, c'est deux associations qui nous ont contactés. Exactement, je pense que c'est une association d'Alicante. Parce que exactement, on a un link normalement où les personnes
s'inscrivent,
c'est ça.
Et bon, on sait, je sais qu'il y en a deux qui se sont inscrites, et exactement, je sais pas l'association.
On préserve donc l'anonymat pour l'instant, la surprise.
On verra.
Bon, moi je vais y aller, je n'y manquerai pas. Bon, on va pour une prochaine émission peut-être.
Non, en fait, je voudrais juste ajouter que je crois qu'on a deux buts avec ce projet. Tout d'abord, bien sûr, faire connaître les gens. Mmh. Et après, car on choisit toujours des thèmes actuels pour les hommes d'affaires qui habitent ici, qui font leur business ici, on va toujours raconter quelque chose d'intéressant à travers de nous-mêmes ou bien à travers des invités spéciaux. Et comme ça, on va parler de marketing, de par exemple des thèmes de psychologie dans le business, de l'assurance, de tourisme, de restauration, un peu de tout. Des thèmes qui peuvent vraiment être intéressants pour les hommes d'affaires qui habitent ici à Alicante. Pour leur faire développer aussi dans leur business.
Oui, en fait, notre but, comme dit Elina, c'est faire participer les gens à des thèmes qu'on va mettre sur la table et que chacun nous raconte aussi un peu leurs expériences d'après leur métier, d'après leur commerce, parce que la diversité est tellement grande qu'on peut trouver, par exemple, une agence de voyage comme un restaurant, un hôtel, ou une psychologue, ou une esthéticienne. Et alors, cela nous permettra de changer des idées et d'arriver à des conclusions. Et à la fin, le principal, de s'aider, quoi. Parce que
ça s'est fait dans beaucoup de communautés, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui caractérise les francophones.
Voilà.
Et peut-être qu'il était temps de songer à cette voie.
Que d'autres nationalités, et peut-être, je ne dirais pas sont plus unis, mais se tiennent plus ensemble à faire ce type de réunion.
Ils sont plus en contact.
Plus en contact que nous, les francophones.
Je partage ces vues, moi aussi.
Et c'est pour ça que je crois que c'est intéressant, et on espère que ce genre d'événement va aller chaque fois à plus, quoi.
Au-delà, oui.
Au-delà.
Bon, avant de faire une petite pause musicale, je tenais à dire que je vous avance le sujet dont je voudrais qu'on parle. Cette présence francophone, est-ce que vous êtes en train de faire, n'est pas restée inaperçue, puisque même la télévision russe en Espagne, Hispania TV, qui avait commencé ses émissions en russe, voire en espagnol, qui voulait déjà bouger en anglais, eh bien, je peux déjà l'affirmer, puisque je suis lié à cette chaîne de télévision en tant que responsable de communication et de culture, va se lancer en français. Donc, il y a comme une envie, vraiment, on s'aperçoit que quand même, il y a un potentiel, il y a des gens, un espace et quelque chose dont il faut s'occuper, qu'on a peut-être un peu délaissé, qu'on a laissé faire comme ça, librement. C'était un peu le chacun pour soi. Et peut-être qu'il y a un sens de communauté ou à faire bouger, tout comme le font les russophones, puisque les russophones, quand même, c'est pas seulement la Russie, ça va au-delà, l'ancienne Union soviétique, ou d'autres pays qui s'y attachent également. Et c'est quelque chose qui bouge vraiment. Peut-être que donc, du côté de la francophonie, vous êtes en train de devenir des précurseurs, peut-être, d'initiatives similaires. Et je vous en félicite.
Merci.
On
attend Hispania TV aussi dans notre événement.
Alors, on en parle, j'y veillerai, je vais faire de mon mieux en ce qui me concerne. Et ceci dit, donc, puisqu'on parle de francophonie, aujourd'hui on va voyager maintenant tout de suite au Québec, en Amérique du Nord, avec une chanteuse que j'adore, que j'aime beaucoup, Linda Lemay, ou comme on dit en québécois, Linda Lemay, qui nous chante ses maudits français. Ah, c'est sympa comme titre, je trouve déjà, qui appartient à son album Du coq à l'âme, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de coq, le coq qui représente donc la France, et donc un petit peu le français et toute cette culture, puisque finalement on a peut-être tous un petit peu de coq à l'âme, et il s'agit à travers cette très belle chanson de voir un petit peu les similitudes, les différences entre francophones ici, entre québécois et français. Écoutons Linda Lemay, les maudits français.
Ils parlent avec des mots précis, puis ils prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes, ils passent leur grande journée à table. Ils ont des menus qu'on comprend pas, ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant le moyen de pas être gros. Ils font des manifs au quart d'heure à tous les maudits coins de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs qui roulent en fou, qui collent au cul. Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens. Les longues promenades en skidou ou encore en traîneau à chien. Ils ont des tasses minuscules et des immenses cendriers. Ils font du vrai café d'adulte, ils avalent ça en deux gorgées. On trouve leurs gros bergers allemands et leurs petits caniches chéris sur les planchers des restaurants, des épiceries, des pharmacies. Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent et il est 2 heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt, ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magret de canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un bout de paupière, un bout de gencive, un bout d'oreille, un bout de museau. Pour des papilles gustatives de Québécois, c'est un peu trop. Puis ils nous prennent pour un martien quand on commande un verre de lait. Ou quand on demande la salle de bain, t'as quelle place, s'il vous plaît. Et quand ils arrivent chez nous, se prennent une tuque et un canuc, se mettent à chercher des igloos, finissent dans une cabane à sucre. Ils tombent en amour sur le coup avec nos forêts et nos lacs, et ils se mettent à parler comme nous, apprennent à dire à tabarnak. Et bien saoulés au caribou, à la Molson et au gros gin, ils s'extasient sur nos ragoûts de pâtes de cochon et nos plats de bine. Vu qu'on n'a pas de fromage qui pue, ils s'accommodent d'un vieux cheddar. Ils se plaignent pas trop non plus de notre petit café bâtard. Quand leur séjour tire à sa fin, ils ont compris qu'ils ont plus le droit de nous appeler les Canadiens alors que l'on est Québécois. Ils disent au revoir les yeux tout trempés, le sirop d'érable plein les bagages. On réalise qu'on leur ressemble, on leur souhaite bon voyage. On est rendu qu'on donne des becs comme si on l'avait toujours fait. Il y a comme un trou le Québec, quand partent les maudits Français.
Ces applaudissements n'étaient pas pour nous. Même si on peut penser qu'on les mérite, mais pas encore. On est encore en train de travailler dur dur pour que ça marche et que ça arrive un jour ou l'autre. Monsieur Sacha Bartza, est-ce que vous êtes toujours à l'appareil ?
Je suis toujours là.
D'accord, on sait que vous devez partir.
Dans deux, trois minutes, je vais devoir vous laisser.
Alors, on va vous céder la parole parce que nous, on a encore beaucoup de choses à se dire. Et on va vous inviter quand même une prochaine fois également en présence, même si cette fois-ci, cela n'a pas été possible. Et voilà, on voudrait simplement vous céder la parole pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous souhaitiez dire par rapport donc, à cet apéro à l'Alicantine, ou si vous avez quelque chose que vous avez laissé encore...
Simplement, bon, premier, je tenais à vous remercier pour votre soutien. D'accord, ça c'est pour moi, c'est, pour nous c'est très important, surtout bon, donner à connaître et, notre apéro. Pour nous, c'est un projet très illusionnant. Comme on vous a dit, je vais me répéter une autre fois, que c'est vraiment un projet où on veut réunir les francophones de la province d'Alicante et surtout qu'on puisse se connaître, qu'on puisse savoir où on est, qu'on puisse faire de nouveaux projets ensemble et s'entraider surtout entre nous. Vous remercier. J'espère la prochaine fois de pouvoir être dans le studio avec vous tous.
Avec grand plaisir.
Et bon, je vous embrasse à tous de Barcelone.
Nous vous embrassons à notre tour et vraiment nous vous remercions de votre temps précieux. Nous savons que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes très occupé et que vraiment vous nous avez donné un maximum de votre temps. Et encore merci d'avoir lancé cette initiative. Il fallait le faire et je vous en remercie.
Merci beaucoup. On se voit jeudi.
On se retrouve bientôt, très tôt.
Okay.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, avant de reprendre avec nos invités, simplement passer quelques données simplement par rapport au terme francophonie, puisqu'on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on en connaît vraiment l'origine ? Eh bien, je vais faire un peu d'histoire aujourd'hui, voilà. Alors, le terme s'écoute pour la première fois en 1880, et c'est un géographe du nom d'Onésime Reclus qui va employer ce terme à l'époque, mais c'était un terme à des connotations coloniales, puisque le terme faisait allusion donc aux colonies françaises réparties de par le monde. Faut-il le dire que le français, tout comme l'anglais, sont peut-être les deux seules langues que l'on retrouve un peu partout dans le monde, sur les 5 continents. C'est un privilège rare et qui en fait donc sa richesse du point de vue géographique et humain. Et voilà, par rapport à quelques données liées donc à la francophonie, les chiffres de francophones ne sont pas très clairs, de locuteurs francophones, puisque c'est, il n'arrête de croître, d'aller de l'avant. On parle peut-être actuellement, on est déjà en 2019, mars 2019, peut-être quasiment 300 millions de par le monde. On assure que ce chiffre va vraiment booster en 5 ans quasiment 500 millions, puisque ne l'oublions pas, l'Afrique de l'Ouest est quasiment francophone, presque à 100%. Et la natalité y est plus forte qu'ailleurs. Et ce qui fait que même l'Afrique pourrait devenir dans les temps à venir le grand continent francophone. Un grand continent, je le dis toujours, j'assure des cours à l'université, que l'Afrique sera francophone, tout comme peut-être l'Amérique sera hispanophone. J'en suis certain, dans les deux cas. Donc nous avons donc l'une des grandes langues importantes du point de vue des institutions internationales avec l'anglais, puisque c'est une langue qui est présente dans les 3 capitales européennes, Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. C'est une langue aussi présente à l'ONU, à l'UNESCO, un peu partout dans l'Union européenne et dans beaucoup d'institutions liées donc au cadre juridique et autres. On pourrait en parler, si vous voulez, beaucoup plus, même langue co-officielle de quelque chose de peut-être plus banal, comme le grand concours de l'Eurovision ou avec l'anglais. Donc, c'est l'une des langues, la seule langue qui partage donc ce privilège. Des pères de la francophonie, moi j'aimerais retenir, puisque je pense que quand on parle de francophonie, on parle de valeurs également. On parle donc, on en parlait lors de la pause musicale entre nous, donc des valeurs de liberté, égalité, liberté, égalité, fraternité. Excusez-moi, c'est le direct, ça se voit, c'est du live. Mais également, je voudrais parler à travers certains de ce que l'on considère les pères de la francophonie, dont Léopold Sédar Senghor, le premier homme noir reçu à l'Académie française et également premier président du Sénégal indépendant en 1960, qui exprime très bien cet esprit de la francophonie. Puisque, je cite, hein, il s'agit de l'un de ses discours, je n'en prends qu'une toute petite phrase, à l'Université Laval du Québec, prononcée en 1966 par Léopold Sédar Senghor. « Avant tout, pour nous, la francophonie est culture. » Et ça, nous l'oublions pas, le français et la culture sont très liés. Donc, c'est une communauté spirituelle, ce que l'on nomme une noosphère, autour de la Terre. Effectivement, le français voyage de par le monde. Attachement à la langue, mais pourquoi ? Le français est langue internationale de communication. Il nous offre à la fois clarté et richesse, précision et nuance. C'est quelque chose qui reste. Je dirais encore, et je vous cède la parole parce que je sens que mes invités veulent en ajouter un petit peu plus, la francophonie, c'est l'usage de la langue française comme instrument de symbiose. Par-delà nos propres langues nationales ou régionales, il en est question ici, bien sûr, pour le renforcement de notre coopération culturelle et technique, malgré nos différences ou nos différentes civilisations. Et enfin, avant d'en finir, il s'agira pour faire de la francophonie avec un F majuscule, c'est-à-dire de la francophonie institutionnelle, le modèle et le moteur de la civilisation de l'universel. C'est quelque chose de fondamental, de favoriser les échanges d'idées en respectant la personne originaire et originale de chaque nation. Je crois que c'est ce que vous êtes exactement en train de faire.
Et oui, oui, vous avez raison, Pierre. Je crois que c'est exactement ça. En fait, pour moi, la francophonie, tout d'abord, c'est la richesse. Comme c'était bien dit, la richesse de tout, de la culture tout d'abord, parce que il y a beaucoup de nationalités qui parlent français et chaque nationalité ramène sa propre culture. sa propre musique, sa propre cuisine, sa propre architecture, un peu de tout. Et quand on se réunit, tous qu'on parle français, natif ou bien pas natif, mais on parle toujours français, et on peut créer des projets importants au niveau de la culture, au niveau du business, un peu de tout. Exactement, parce qu'on est tous différents et on peut se faire un bon mix quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est parce qu'au niveau de la psychologie, on sait bien que quand on réunit des gens pareils, c'est compliqué de créer quelque chose. Parce que la créativité, c'est tout d'abord la plénitude des idées. Et quand on est pareil, on a plus ou moins des idées pareilles aussi. Mais quand on se réunit et on est si différents, des pays différents, on peut vraiment créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup le phénomène de la francophonie qui nous permet de faire des projets différents, extraordinaires et intéressants.
Et finalement aussi parler en français, c'est tout comme le parler anglais déjà, c'est un atout pour multiplier ses chances sur le marché international de l'emploi aussi, ne l'oublions pas, c'est une langue qui vraiment est présente.
Tout à fait.
Et voilà, je vais encore citer Gilles Vigneault, un poète québécois, également l'un des chantres de la francophonie au Québec, pour qui la francophonie c'est un vaste pays sans frontières, c'est celui de la langue française. C'est le pays de l'intérieur, c'est le pays invisible, spirituel, mental, moral, qui est en chacun de vous.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pierre, la première fois quand j'étais là-bas, ici, pardon, dans le programme, on a parlé de la francophonie aussi un peu, et on a dit en fait une bonne citation, que ce n'est pas moi qui ai choisi la langue française, c'est la langue française qui m'a choisi.
Vous avez bonne mémoire, hein, vous l'avez bien retenu. Hein. Et en ce qui vous concerne, c'est une évidence. Et faudrait-il parler aussi de cette évidence qui vous touche, mais qui également touche très souvent le peuple russe de par son histoire. Je veux dire, il y a quand même une très belle histoire d'amour entre le français et le peuple russe que vous récupérez aujourd'hui, vous actualisez cette belle histoire d'amour. En 2019, dans les années 2010, vous la reprenez, vous prenez donc la relève.
Non, c'est vrai que la Russie était toujours très proche pour la France. On avait toujours des relations très très proches. Et il faut dire que l'aristocratie russe parlait français beaucoup mieux que russe. Ça, c'est un fait.
Tout de même, il en est de même pour l'aristocratie anglaise, britannique, hein, faut le dire.
Non, mais c'est vrai que les aristocrates russes, ils parlaient russe avec des fautes, et ils parlaient français, excellent. Et après, c'est peut-être une honte, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et après, on avait toujours des relations au niveau culturel, politique. Les ambassadeurs français en Russie étaient toujours des gens très importants. Et ils ont eu beaucoup de choses pour réussir, pour créer des relations entre deux pays. Et c'est pourquoi peut-être ici en Espagne, surtout parce que c'est Alicante, c'est pas la capitale après Moscou, ça me manque créer quelque chose, des projets entre francophones. Parce que je suis habituée que, par exemple, à Moscou, l'ambassade de France, ensemble avec des autres ambassades francophones, crée toujours énormément de projets au niveau de business, au niveau de la culture. Ils essayent à se bouger beaucoup. Peut-être qu'ils ont aussi un bon budget pour ça, ça c'est clair, mais quand même. Et ici, ça me manquait. C'est pourquoi j'essaie de créer des choses.
Quand on ne nous offre pas quelque chose, il faut peut-être le créer. Vraiment, vous êtes quelqu'un... Vous avez fait bouger, il faut dire que Elina Roussamian, moi, j'aimerais bien un jour lui rendre hommage. Elle va mériter un monument à Alicante.
Merci.
Parce que d'un point de vue culturel... elle fait bouger les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes culturelles.
C'est vrai, c'est vrai. Je la connais personnellement et c'est vrai qu'elle s'intéresse énormément et pour ce genre de type et d'intérêt culturel. Et c'est vraiment formidable. C'est ça. C'est à féliciter aussi.
Merci beaucoup.
Et ce serait bien si l'humanité ressemblait davantage à Madame Aroustamian. Je crois que la planète serait bien différente.
Oui, je suis un peu une russe folle qui essaye à réunir des francophones natifs, quoi.
Mais, au fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a et les privilégiés de pouvoir parler cette langue formidable.
Moi, je sens Madame Aroustamian comme une petite fée magique qui a réussi à nous ouvrir le cœur, à nous réunir. Parce que nous, on était déjà là.
Ouais.
Mais si ce n'est pas grâce à elle, je pense que le lien n'aurait pas été possible. Alors, franchement...
Parce que la vie sans la langue française, sans la langue de Molière, c'est impossible à imaginer.
Sans doute. On commence à s'en apercevoir, cette nostalgie croissante. Et peut-être que ça va permettre également d'accorder une place croissante aux Français, puisque comme on est en train de le voir, ça fait bouger, c'est une synergie de professions, et même c'est pas seulement le business, c'est la culture aussi qu'on est en train de faire bouger. Je veux dire, c'est une langue qui véhicule des valeurs, c'est des rencontres qui se tissent, et ça peut bouger, ça peut faire bouger beaucoup de choses.
En fait, j'ai une idée depuis longtemps, depuis que je suis là presque, de créer...
Nous avons une exclusivité ici, hein. Allez, c'est parti. Enfin, finalement.
Tout à fait.
De créer quelque chose de grand au niveau de la culture francophone. Parce que, par exemple, je sais qu'à Moscou, l'ambassade de France avec des autres ambassades francophones organise chaque année le mois de la francophonie. Et parce que le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie.
Tout à fait.
Et ils ont toujours plus ou moins 2-3 semaines des événements culturels, un peu de tout, cinéma, théâtre, concerts. Et francophone, de chaque pays francophone, un peu de tout. Et je voudrais bien de faire quelque chose ici aussi à Alicante, parce que ça se fait, mais à Barcelone et à Madrid, en Espagne, la même chose.
Je tenais simplement à vous signaler que traditionnellement, l'Université d'Alicante a organisé des journées de la francophonie. Mais il convient peut-être de
mais dans de les faire murs reprendre. De l'université,
voilà.
Exactement.
C'est ça. Donc, ce serait bien, votre idée, je crois que c'est aller au-delà de l'université.
Exactement, oui. Je voudrais bien faire quelque chose, enfin, c'est ce projet au niveau de la ville, pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants, pas seulement pour les écoliers de lycée français.
Oui, nous avons un lycée français, il fallait en parler aussi, déjà, qui se crée en 1962. Oui. Avant, il y avait un collège français, mais en 1962, déjà, on va donc créer ce lycée français pour accueillir ces plus de 30 000 personnes français d'Algérie qui s'installent à Alicante. C'est la deuxième colonie de francophones.
Ça prouve justement qu'Alicante, non seulement maintenant, mais jadis, était une ville très importante pour les francophones, pour les Français, puisque... le lycée s'est créé en Alicante même et toujours vivant de nos jours qui a changé d'endroit
maintenant. Oui, maintenant c'est le Campello,
Campello
qui est une ville aussi francophone aussi.
Je crois que c'est la première ville avec un des plus francophones
après
Alicante
plus
en
élevé,
province. Oui.
Énormément.
Mais
ouais.
Par exemple, il faut dire que ça change la tendance dans le lycée français parce que maintenant, il y a énormément d'Algériens qui viennent à vivre à Alicante.
Et des Algériens fortunés aussi. Mmh. Tout le monde ne peut pas accéder au prix quand même. C'est pas donné pour tout le monde.
C'est ça, exactement. Et ça change la tendance depuis 3 ans. Mmh. Et maintenant, le lycée français, c'est la première institution qui va à cette nouvelle tendance, parce que ça augmente énormément la quantité des étudiants algériens dans le lycée.
Et donc, on voit donc également le français à nouveau qui est au centre donc de la francophonie, même si l'Algérie ne fait pas partie, le seul grand pays francophone qui ne fait pas partie de la francophonie politique en ce moment, mais ça va venir. Mais en tout cas, oui, de la francophonie réelle. C'est le deuxième pays après la France qui a le plus grand nombre de francophones. Et par rapport à d'autres voies d'accès à la culture francophone, il y a des publications, des parutions francophones. Je voudrais qu'on en parle aussi. D'un côté, La Gaviota, qui a été créée par l'une de vos compatriotes, puisque vous aussi, monsieur Dietz, vous êtes d'origine belge, si je ne m'abuse.
Belge, ça.
Oui, alors c'était madame Yvette Perel, pour qui j'ai eu la chance de travailler en tant que journaliste il y a de nombreuses années, il y a peut-être une vingtaine d'années, dans son journal La Gaviota, le journal francophone de la Méditerranée.
Et ça existe encore ?
Qui existe toujours. Et en dehors de ça, nous avons eu, lors des précédentes, notre précédente rencontre, également...
L'écho d'Alicante.
D'Alicante, à nouveau, une parution francophone qui regroupe quand même...
Si
vous voulez en parler, puisque c'est quand même intéressant de savoir que ça existe et que ça lui permet de regrouper enfin, pas mal de professionnels et d'associations culturelles liées aux Français.
Tout à fait. C'est une revue qui se distribue dans la province d'Alicante et qui arrive énormément à beaucoup de commerces et francophones. Donc, qui permet aussi aux francophones à se connaître d'une autre façon, au niveau professionnel, bien sûr, en mettant des annonces de leur commerce dans cette revue, quoi. Voilà.
Oui. Et enfin, on s'aperçoit quand même, comme disait également Émile Sieuran, également l'un des représentants de la francophonie, en l'occurrence un grand philosophe francophone roumain, on n'habite pas un pays, on habite une langue. C'est un peu ça, finalement, je veux dire, c'est ça, cette langue qui nous habite, en quelque sorte, le français qui est là. Et donc, je voudrais quand même que l'on écoute... puisqu'il nous reste très peu de temps, mais pour profiter de cette richesse francophone, également avant d'aborder les dernières minutes qui nous restent, une chanteuse belgo-égyptienne qui fait partie du courant musical que l'on nomme Musique du Monde, Natacha Atlas, Mon ami Larose, une reprise d'une célèbre chanson de Françoise Hardy de 1964 qui parle de ses valeurs qui sont très proches de celles de la francophonie dont on parlait justement il y a un instant.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête.
avec cette musique envoûtante, magique, aux airs d'Orient, hein, qui mêle le français, l'arabe, enfin la francophonie, c'est un peu ça, c'est ce partage des cultures, des langues. On est quasiment sur le point de se quitter, ça a été une très belle émission, on en voudrait davantage. J'aurais peut-être pu mettre côté musique, je l'avais fait lors de la première émission, j'avais même passé une chanteuse alicantine qui est vraiment célèbre dans le monde francophone, Jeanne Masse, alicantine, que j'aimerais, aujourd'hui je lance le message, on ne sait jamais qui peut nous écouter, mais Jeanne Masse, je crois qu'elle se trouve en ce moment aux États-Unis. Si jamais elle revenait en Europe, si elle avait la nostalgie de revenir sur Alicante, elle serait la bienvenue à cet apéro à l'alicantine, tout d'abord, et bien à sûr. Nos émissions radio ou même à la télé russe aussi, qui va vraiment maintenant passer en français. Donc je vous cède la parole simplement pour clore et avant de vous remercier très sincèrement de votre présence aujourd'hui, de ce partage francophone, de cette aventure qui est déjà bien entamée et à laquelle je souhaite une suite de vraiment très belle et qui puisse mener à créer des liens effectifs et affectifs entre les hommes et les femmes d'affaires, les hommes et les femmes de cœur qui ont le français en partage sur Alicante ou même d'ailleurs, puisqu'on nous écoute également de loin, et peut-être les inviter à venir s'installer chez nous, pourquoi pas, et un peu à voyager grâce au français à travers le cœur.
Mais tout à fait. Notre but, c'est vous inviter à tous à participer à notre apéro networking, apéro Alicantine. Et on espère.
C'est quel jour déjà pour le prochain
jeudi.
C'est donc
le jeudi,
dans deux jours,
le 7 mars,
c'est tout de suite
après-midi.
Là. Voilà.
En plus, le temps nous accompagne ici sur Alicante. Ça sera une belle après-midi.
Printanière quasiment estivale.
Presque un été. Hein.
Superbe, dans un beau cadre au port d'Alicante.
Une très Volvo. Belle vue, c'est la Volvo Ocean Race. Oui. C'est vraiment magnifique, les vues sont imprenables.
Et pour nous, ça sera vraiment de tout cœur. Vous pouvoir vous recevoir et connaître des nouveaux amis, des nouveaux compagnons. Et voilà, je cède la parole à Elina.
Merci
avant
Pascal.
Tout, Pierre, vous remercier pour le programme. C'est vraiment
tout le plaisir est pour
cœur,
moi,
vraiment. Nous avoir donné l'opportunité de promotionner ce
Moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.
Ok.
À très bientôt.
Merci.
Et oui, moi aussi, je vous remercie, Pierre. C'est une bonne possibilité, d'opportunité pour nous, pour parler de notre projet. Et en fait, on vous attend tous dans nos apéros à l'Alicantine, une fois par mois. Et ce sera toujours les jeudis soirs, et avec un verre du temps, du vin. On attend tout le monde. Bienvenue.
Madame Aroussamian, c'est à très bientôt. Et encore merci à vous deux, à vous trois, et à la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine. Au revoir. Merci bien.
Parfois, la nuit nous trahit. Enfer ou paradis. Apprends-moi l'interdit.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.